vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 139. Phil Choucroun, Brooklyn, Alsace. Chers amis, bonjour. Oh là 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 là, ça caille, on est debout sur un bloc de glace. Il fait moins 40. On va vite rentrer dans notre igloo. Bien oui, notre émission, vous l'avez bien connue, est en direct du Groland. Bon là, alors là, je blague, hein, pour ne pas m'offusquer à l'antenne. Et comme on dit bien en Alsace, on n'en parle plus. Ou en tout cas, on n'en parle pas. Bien sûr qu'on a tout ça en tête si on invite le président de l'association Alsace-États-Unis. Bonjour Phil Choucroun.
Bonjour Ambroise Perrin.
On a effectivement en tête tout ce qui se passe dans ce beau, dans ce merveilleux pays. Et en tant qu'Alsacien, on y a tellement d'amis. Mais si vous êtes d'accord, Phil Choucroun, on va bien dire que nous sommes indignés, que nous avons dans notre âme une irréductible éthique de défense des droits de l'homme, mais notre émission, vous l'avez bien connue, est une émission culturelle. Alors bien sûr, la culture, c'est politique. Mais nous n'allons pas pérorer en pseudo-spécialiste de géopolitique. Nous laissons cela aux émissions dont c'est la vocation. Alors, dear friend, how are you?
I'm pretty well, thank you. How are you today?
For sure! Alors, comme on dit notre président, notre première question, monsieur le président de l'amitié alsaco-américaine, quel est votre film hollywoodien préféré?
Alors, j'aime beaucoup ce que Spielberg a fait parce que c'est du grand public, qu'il touche beaucoup l'émotion. Et le plaisir, donc il a su vraiment faire passer des messages aussi différents que celui de E.T. et d'aller sauver le soldat Ryan. Et ce sont des films qui ne m'ont jamais laissé indifférent, même si il va plutôt s'adresser à un très grand public. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des films d'auteur, ce n'est pas sa vocation. Mais je trouve qu'il traduit bien la sensibilité américaine sur des sujets qui nous sont aussi proches. Puisque E.T. c'est l'autre, hein, celui qu'on ne connaît pas, celui qui vient d'ailleurs, celui
et que pourtant... Et on accepte l'étranger.
On accepte, c'est différent. À Minneapolis,
par exemple. Oui, E.T. Mais alors justement, c'est un message universel et c'est un petit peu l'essence de la culture américaine que d'être comprise universellement.
Bon... Alors, il faut dire que on le dit assez souvent depuis que la nouvelle administration fait des siennes, mais c'est que ce pays a été construit, fabriqué, inventé par tous ceux qui sont venus d'ailleurs. E.T. vient d'ailleurs.
Dont le grand-père est allemand, par exemple.
Le grand-père d'E.T., j'en suis pas sûr. Mais le grand-père de Spielberg, et peut-être même dans la famille du président Trump, il y a beaucoup d'Allemands aussi. Voilà, mais ouais, c'est quelque chose qui tient vraiment à l'âme américaine, cette faculté d'intégrer énormément de cultures différentes. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe là en ce moment, parce que c'est une réaction peut-être aussi à des choses qui nous concernent, nous, en Europe, avec l'arrivée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent chercher la paix, le bonheur, l'avenir de leurs enfants, etc., et qui nous posent des questions. Comment est-ce qu'on va faire pour les accueillir tous? Les États-Unis ont un problème similaire. Alors évidemment, d'une façon légèrement différente, les réponses ne sont pas les mêmes parce que nous, on a la mer et eux ont une frontière terrestre. Mais bon, tout ceci ne remet pas en cause l'histoire parce que celle-là, on ne peut pas la changer. George Washington était anglais. Hein? Oui. Bon, voilà.
Et on peut poser la question, comment peut-on être persan? Comment peut-on être américain aujourd'hui lorsque l'on vit en Alsace? Est-ce qu'on on se sent mal à l'aise? Bon, ça, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais quand on est un Américain qui fait le chemin inverse de ses ancêtres, qui s'installe en Alsace.
Alors, on est effectivement en train d'observer qu'un certain nombre d'Américains, en particulier des personnes qui prennent leur retraite, choisissent l'Europe et aussi l'Alsace. Elles viennent s'installer apparemment de plus en plus parce qu'ils y trouvent ici, évidemment, une région magnifique et puis une proximité de pays intéressants et que pour beaucoup d'entre eux, finalement, ils ont des origines qui sont en fait du secteur germanophone, germanique, mm-hmm. hein, dont l'Alsace fait partie.
Voilà. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des gens de Castroville qui se seraient installés à Erstein?
Alors, je n'ai pas eu connaissance de ça, mais dans mes activités touristiques, puisque je suis maintenant à la retraite, mais je conduis des touristes américains qui viennent découvrir la région. Hein, c'est ma passion, j'ai travaillé dans le tourisme toute ma vie. Et ça fait partie des choses que j'ai aimé faire. Voilà, les surprendre, les accueillir, et puis leur montrer des choses auxquelles ils ne s'attendent pas forcément. Et j'avais deux personnes, une dame avec sa fille, qui venait de Castroville.
Alors Castroville, il faut expliquer, donc, c'est la ville où on parle encore alsacien. C'est au Texas, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'est à côté de San Antonio. Et donc, il y avait eu un recruteur au 19e siècle qui cherchait... des paysans, des gens capables de travailler la terre dans un pays, le Texas, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de terre d'abord, puis qu'il fallait absolument entretenir, qu'il fallait développer. Et il avait entendu dire qu'en Alsace, il y avait des savoir-faire dans le domaine agricole très, très fort. Alors il était venu et puis il avait dit, voilà, écoutez, venez, on vous accueille, on vous donne du terrain, c'est à vous de le cultiver, c'est à vous de le faire... de le rendre beau, etc. Et il y a eu donc une centaine d'Américains, d'Alsaciens, pardon, qui se sont laissés séduire et qui ont créé, qui ont fondé ce petit village de Castroville au Texas. Castroville, cet homme qui venait recruter s'appelait Castro.
Rien à voir. Il n'était pas fidèle.
Il n'était pas fidèle, non, non. Et puis donc, il n'a pas cherché bien loin. Il s'est dit, tiens, allez, on va mettre Castroville, comme ça, c'est tout le monde le connaît. Et si vous y allez aujourd'hui, c'est encore une toute petite ville, mais très sympathique. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes plutôt âgées qui ont gardé encore des traces de la langue alsacienne. Et bon, celui qui était leur porte-parole est malheureusement décédé il y a quelques années, mais il venait en Alsace chaque année. Et si jamais vous lui parliez en anglais ou en français, il piquait une colère terrible parce qu'il exigeait que ce soit l'alsacien.
Oui, oui.
Et alors, il fallait parler alsacien. Alors moi qui ne le parle pas, je le devine.
Il était barinois ou orinois, le monsieur ?
Je ne sais plus de quelle origine. Dans tous les cas, voilà, sa famille était clairement alsacienne. Et lui avait entretenu l'alsacien comme langue de communication dans sa famille. Et alors, il a insisté. Effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui ont ces traces encore... Mais il faut reconnaître qu'après 180 ou 190 ans...
Ça fait 5, 6, 8 générations où les gens se marient, bien sûr, et
ça,
perdent... Alors, les jeunes étudiants alsaciens qui vont aux États-Unis pour étudier, ou qui allaient ou qui vont... moi, quand j'ai voulu aller aux États-Unis, c'était pour aller voir des concerts de Grateful Dead et de Jefferson Airplane, d'aller en Californie, et puis c'était les Flower Pot Men, Los Angeles, enfin, ça nous faisait rêver la culture. On écoutait Campus de Michel Lancelot sur Europe numéro 1, et c'était donc les années 70... La culture américaine qui se dispersait partout, c'était un formidable stimulant. Et puis, aujourd'hui, les jeunes Alsaciens ou Français qui vont aux États-Unis, c'est quoi ? C'est l'informatique ? Qu'est-ce qui les stimule ?
C'est les nouvelles technologies, c'est le médical, c'est toutes les activités qui sont, on va dire, à la mode et qui sont indispensables aujourd'hui. Et qu'on retrouve ces Alsaciens dans toutes les universités américaines. Alors, il y en a certains qui se retrouvent à Harvard ou à Yale, dans les grandes universités. Voilà. Puis d'autres qui sont tout simplement dans des state universities, qui sont des endroits beaucoup plus accessibles. Parce que c'est important dans la vie, je pense, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. L'anglais est toujours utile, qu'on le veuille ou non.
Même si ce n'est plus une langue officielle au Parlement européen.
Ah
non ?
D'accord.
Non, ça c'est un point juridique très précis.
D'accord.
Puisque les Britanniques sont partis avec le Brexit, il reste l'Irlande, mais au moment des traités de Maastricht, ils avaient choisi le gaélique, il y a les Maltais, mais ils ont choisi le Maltais, et donc on s'est retrouvés sans la possibilité officielle de parler en anglais. Et la Commission européenne, dans sa grande sagesse et surtout dans sa belle lâcheté, parce que autrement, ça aurait été le français, la langue officielle la plus globale, ils ont dit, l'anglais reste la langue de travail. Voilà, donc si vous voulez...
C'est bien triste.
Oui, c'est bien triste, voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que donc, les jeunes Alsaciens qui vont là-bas et qui ont quand même une chance sur deux de se marier ensuite sur place, et c'est comme ça que ils deviennent des membres de l'association. Je répète, Philippe Choucroune, vous êtes Phil Choucroune, pas Yip. Hein,
dans le cadre de l'association, c'est Phil. Maintenant, ma mère continue à m'appeler Philou, donc voilà, il y a de toutes les versions possibles.
Hein. Et donc, ces jeunes Alsaciens, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, encore faire le tour des États-Unis en autostop? Ou alors
l'autostop est devenu très dangereux, je crois, un peu partout.
Oui, donc en Greyhound,
non, mais
à rigueur.
Franchement, c'est toujours un plaisir, je pense, pour des jeunes de découvrir les États-Unis, tellement ils sont variés, ce sont des endroits extraordinaires, des paysages
surtout
fantastiques.
Surtout des petits bleds, faut pas croire qu'il y a que les gratte-ciels.
Voilà,
hein.
Je peux vous en raconter des petits bleds, moi. Mais cela étant, je crois que ça reste toujours un rêve de se retrouver... dans les grands endroits connus, que ce soit New York ou la Californie, où vous êtes allé. C'est toujours une expérience magnifique. Et ceux qui reviennent ne sont plus les mêmes.
On a un peu changé. Alors, c'est... Est-ce que pour les Américains qui viennent en Alsace, il y a le même accueil que pour les Alsaciens qui vont aux États-Unis? Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai suivi ma chère et tendre qui était devenue prof dans une université à Champaign-Urbana, au sud de Chicago. Bon, moi, je prends un congé sans solde, je travaillais à la télévision, et je la suis là-bas. 15 jours plus tard, j'étais teaching assistant.
Wow.
Parce que, comme ça, une petite audition, on a discuté et tout, et je donnais des cours de français sur le français du 19e siècle, sur Flaubert et tout, voilà, et simplement parce que mes petites capacités avaient été reconnues, et j'ai trouvé ça formidable. En France, il aurait fallu remplir des papiers pendant 3 mois, quoi. Et là, tout d'un coup, je me retrouve devant des étudiants, c'était génial. Bon, j'avais 28 ans, et c'était formidable. Donc, ça veut dire que tout était possible tout de suite et ça marchait.
Je pense qu'ils sont moins prisonniers de certaines particularités françaises, administratives, etc. Maintenant, ils exigent aussi un très haut niveau de compétences. Ils ont des spécialistes dans tout, des choses qui sont tout aussi différentes que la culture, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est technologique, etc. Donc, OK, ils laissent une chance à tout le monde. Ça, c'est connu des États-Unis. On vous donnera votre chance, mais on vous surveillera.
On vous balayera rapidement.
On vous balayera rapidement, et c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans toutes sortes d'activités. Donc ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça changera. C'est vraiment ancré au plus profond de la mentalité. Vous avez une valeur, vous dites que vous voulez y aller, on vérifie 2-3 choses, et puis hop, on vous donne une chance. Voilà. C'est bien agréable. En fait, ici, c'est difficile. Hein. Oui. Il faut le reconnaître. En France, c'est pas tout à fait la même chose.
Alors, Phil Choucroune, l'association donc d'amitié, il y a le mot amitié dans le titre de l'association Alsace-États-Unis.
C'est sous-entendu, mais ça n'est pas dans le titre.
C'est pas dans le titre. Elle a quel âge, cette association?
Alors voilà, elle a 50 ans cette année.
Ah ben,
voilà, Ambroise, merci beaucoup. C'est un événement pour nous. Bon, évidemment... il fallait fêter en 1976 le bicentenaire de la déclaration d'indépendance. Et c'est à ce moment-là que quelques personnalités à Strasbourg se sont mises ensemble et ont décidé de fonder cette association qui représente quand même beaucoup en Alsace. Tous les Alsaciens, enfin beaucoup d'Alsaciens ont une relation affective avec les États-Unis. Et donc, on a retrouvé là des patrons d'entreprise, des gens qui étaient dans la magistrature, etc., et qui ont dit, voilà, on va nous aussi avoir cette association, aidée par le consulat général à l'époque, hein, parce que ça fait quand même 155 ans qu'il est là. Et à cette époque-là, ils ont donc poussé. Et puis, il y a un personnage tout particulièrement qui a œuvré en tant que secrétaire général jusqu'à la fin de ses jours, qui était Gilbert Adet, que certains de vos auditeurs ont peut-être connu. Et Gilbert a vraiment été le porteur de l'âme de cette association jusqu'à ses derniers jours. Donc on lui doit beaucoup, ainsi qu'à tous ceux qui sont mobilisés il y a 50 ans.
Alors, il y a combien de membres actuellement ?
Alors, des membres qui payent leurs cotisations, très peu. Je fais un appel ici public. Une association comme la nôtre ne vit que par les contributions. C'est vrai qu'on doit avoir à peu près 200 personnes qui sont officiellement comptabilisées comme membres payants de l'association.
Un bon millier de sympathisants.
De sympathisants, il y en a beaucoup, beaucoup. Oui. Certains ont un petit peu pris leur distance, parce que peut-être parmi ceux, les membres fondateurs, il y a aussi une question d'âge, etc. Mais c'est aussi que, la vie est ainsi faite, on est attiré par toutes sortes de choses en permanence, on ne peut pas rester toute sa vie membre de la même association, sauf cas particulier. Mais c'est quand même pas mal de sympathisants qui sont là, qui nous connaissent, qui nous suivent, qui réagissent aussi, puisqu'on est sur Facebook, on est évidemment en site internet, etc.
Est-ce qu'il y a plus d'Alsaciens dans l'association que d'Américains installés
Oui, clairement. Ce sont des Français qui ont un intérêt pour les États-Unis, pour toutes sortes de raisons.
Parce qu'ils ont fait leurs études là-bas, comme
par exemple, ou ils ont leurs enfants qui ont épousé des Américains ou des Américaines. Ils ont fait des vacances là-bas, ou alors ils ont envie d'entendre un peu parler l'anglais. Donc, on a effectivement la possibilité de nous, on a des activités aussi en anglais. Mais il y a plus de Français intéressés, amis des États-Unis ou intéressés simplement, que d'Américains. Mais de plus en plus d'Américains, en tout cas, c'était l'un de mes vœux quand je suis arrivé à la présidence il y a une dizaine d'années, c'était d'effectivement accueillir aussi des Américains. Ils ont par ailleurs leur propre association de la communauté américaine, exclusivement en anglais. Il faut être américain ou canadien pour en faire partie. Nous, ce n'est pas le cas. On est ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Et par contre, j'ai toujours voulu que les Américains aussi puissent venir chez nous. On en a. Parce que vous ne pouvez pas être une association d'amitié entre la France et les États-Unis, entre l'Alsace et les États-Unis, entre Français. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, on en a quelques-uns. Et je vois qu'ils restent, qu'ils sont fidèles. Et ils nous apportent beaucoup parce que notre but, c'est de mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, dans l'histoire bien sûr, mais encore aujourd'hui, comment ce pays s'est développé, quelles ont été les grandes étapes, et puis comment peut-on interpréter l'élection de Donald Trump, comment est-ce qu'on peut interpréter les activités des Américains dans le monde, etc.
Alors, une des activités, c'est le jumelage entre Strasbourg et Boston. C'est une filiale de votre association ou c'est quelque chose d'à part ou...
Alors en fait, c'est au sein de notre association, ces dernières années, ça fait un bon moment maintenant, qu'on a poursuivi l'action du jumelage, qui a plus de 60 ans, puisque c'était le chef d'orchestre alsacien.
Quelle est la raison de ce
c'est
jumelage?
C'est ça, donc Charles Munch était chef d'orchestre du Boston Philharmony, et donc, quand il est arrivé à Boston, il a eu cette idée de dire pourquoi ne pas jumeler Strasbourg et Boston, puisqu'il était strasbourgeois. Mmh. Et ça s'est fait comme ça, donc petit à petit. Et aujourd'hui, il y a une association à Boston et une association que nous avons, c'est notre association en fait qui s'en occupe, avec un groupe de travail Boston. Et ça, pour nous, c'est très sympathique. On a eu pendant très longtemps des échanges scolaires avec des professeurs d'anglais ici en Alsace qui trouvaient des collègues côté bostonien pour faire des échanges, etc. On a eu, la ville de Strasbourg nous a confié tout le volet interculturel de ce jumelage.
Et sportif,
bien
le
sûr.
Fameux marathon de Boston.
Absolument, on accompagne les coureurs. On a des échanges de pompiers, puisque il y a dans le cadre du marathon déjà.
Chicago Fire, vous connaissez cette série?
Bien sûr.
D'accord. Donc les pompiers.
donc toutes sortes d'approches en fait très populaires qui font que les habitants de Strasbourg et les habitants de Boston sont intéressés mutuellement pour mieux se connaître et pour avoir des activités. Donc c'est ça qu'on fait. Et la ville, de son côté, elle entretient tout un volet plutôt économique et politique. C'est son rôle. Nous, on n'en est pas vraiment mandaté pour ça. Par contre, sur tout ce volet interculturel, oui, ça, c'est notre...
Et ça continue encore
bien sûr, en ce moment.
Oui, malgré... on exprime sa compassion aux amis de Boston ou on risque de faire une bêtise et on ne dit rien.
On n'a pas besoin de compassion. Non. En plus, on n'a pas à se mêler, nous, des avis politiques des uns et des autres.
Oui.
Il y a à Boston, en tous les cas, il y a quelques villes aux États-Unis qui sont très, très, très internationale dans leur essence.
Boston est une ville démocrate.
Elle est démocrate. Oui, hein, c'est une femme.
Alors, elle est couverte de neige, comme New York en ce moment.
Évidemment.
Oui, alors on peut dire ice, je n'aime pas.
Non.
Voilà, voilà.
C'est un jeu de mots.
Voilà. Voilà. Alors, est-ce que cette culture américaine des années 70, qui a vraiment submergé le monde et qui a été juste concurrencée par les Beatles, hein, je crois, si on en croit les historiens de la culture, elle est même partie en Asie, aussi en Afrique. Est-ce qu'elle est toujours vivante ou est-ce qu'elle a complètement disparu ce côté on partage tout bon, c'était pas des phalanstères, mais c'était l'amour libre, notamment, qui nous faisait rêver quand on avait 17 ans. Et tout ce côté un petit peu liberté, les cheveux longs. Quand on avait les cheveux longs, on était des beatniks. Hein, c'est quand même des Américains.
Non, je crois que les choses ont changé.
Oui.
Amboise, je crois que là, il faut tourner cette page. Non, les Américains ont diffusé le rap, par exemple, qui venait des faubourgs, des grandes villes, avec tous les problèmes de la vie des jeunes hein, dans ces trucs-là. Donc ça a effectivement le tour du monde. Ça a baissé pas mal entre-temps. Et non, c'est la musique. La musique continue à être très anglophone dans le monde.
Alors, j'ai lu là, hier, que le nouvel album de compilation des Eagles s'était vendu, je crois, à 50 millions d'exemplaires et qui battait tous les records de vente. Donc, ça veut dire que c'est complètement fou, là. Hotel California, c'est fou, ça. Donc, c'est ça veut dire... Alors, est-ce que ça veut dire que, comme des gens... Bon, moi, je suis né en 1953, donc j'avais 15 ans à l'époque, et j'ai vécu mai 68 par procuration dans les années 70, années 80, et ça continue à être pour moi des racines. Est-ce qu'il y a des Américains, bon, vous connaissez, vous n'êtes pas historien des États-Unis, mais vous connaissez ça super bien, est-ce qu'il y a des jeunes Américains qui vivent les années 70, Flower Pot Men, par procuration aujourd'hui encore? Est-ce que c'est une référence culturelle pour les Américains?
C'est une référence forcément, puisque le cinéma a aussi contribué à ça, de faire, de montrer un peu cette génération, de faire péter toutes les barrières pour vivre libre, pour voilà, oublier tout ce carcan que l'on voit encore dans les films des années 60, d'une civilisation extrêmement conservatrice, extrêmement coincée dans pas mal de choses. Donc tout ça, oui, ça reste bien évidemment... je pense une référence, mais je ne le ressens pas personnellement. Alors là, c'est moi qui parle, ça n'a aucune valeur scientifique, mais je ne le ressens pas personnellement dans le comportement des jeunes, que ce soit des étudiants ou alors encore plus jeunes, bien sûr. Ça ne me paraît pas être autant actuel que ça a pu l'être à une certaine époque.
Alors, quelque chose qui est peut-être plus actuel, ce sont les années 1944-1945, parce que là, les Américains sont venus en Alsace, et pas pour rien. Ouais. Est-ce que votre association continue à célébrer toutes les commémorations de la libération de l'Alsace grâce aux Américains?
Alors, toutes, non. D'abord, il y a eu des anniversaires qui ont été célébrés ces quelques dernières années, surtout de la Première Guerre mondiale. Et puis
oui,
récemment,
faut pas oublier qu'ils sont aussi venus,
ils sont
bien
venus,
sûr, hein. En 1917.
C'est ça.
Président Wilson qui a donné son nom au boulevard Wilson. Quand on va à la gare, on oublie que c'est grâce aux Américains.
Hein. Ouais. Exactement. Et la Deuxième Guerre mondiale aussi, d'une certaine façon, ils étaient là. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commémorations qui se sont déroulées auxquelles on participe pas à toutes. Mais quand on le peut, on y va. C'est en accompagnement de la consul générale, qui, elle, passe pratiquement tous ses dimanches avec un bouquet à la main et des beaux discours qui permettent de rappeler ce sacrifice de tous ces Américains.
Entre parenthèses, le consulat dont on avait dit qu'il allait fermer, il est toujours ouvert.
Il est toujours ouvert. Dieu merci, il est défendu, il est bien défendu par son équipe d'abord, et on les salue, mais aussi nous sommes mobilisés pour faire passer des messages, pour expliquer à quel point il est important pour Strasbourg, il est important pour l'Alsace, pour la France, le rôle du consulat en tant que nation observatrice au Conseil de l'Europe est très important. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. Donc il est véritablement bien. Donc pour revenir à la question, c'est vrai que toutes ces commémorations sont importantes. Et c'est là qu'on remarque à quel point il y a un attachement des Alsaciens, des Français, aux États-Unis. Quand ces manifestations se déroulent, le village est là, la population est là, les écoles ont envoyé une classe avec des petits drapeaux américains, etc. Ce n'est pas du cinéma, c'est ancré profondément, je crois, dans le cœur des Alsaciens.
C'est formidable, ça.
Et ça, c'est rassurant.
Oui, hein, rassurant, c'est le bon mot.
C'est vrai, parce que bon, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et puis, sans parler de tous ces Américains qui sont tombés amoureux des Françaises à l'époque.
Oui, parfois ils sont repartis en laissant un cadeau à l'Alsace.
Voilà. Non, mais cette amitié qui a 250 ans cette année, hein, on fête la déclaration d'indépendance. 250 ans, c'est pas rien. Et tout de suite, dès le départ, les Français étaient aux côtés des Américains, qui étaient à l'époque beaucoup d'Anglais d'ailleurs, mais qui habitaient là-bas, pour les aider à s'émanciper, hein, et devenir donc le pays indépendant qu'il est devenu, donc le grand pays des États-Unis. Donc voilà, cette amitié-là, elle se traduit au quotidien, elle se traduit dans ces commémorations-là, elle se traduit dans la musique, dans les arts, dans le cinéma. Parce que le cinéma, évidemment, est un grand vecteur de la culture américaine, alors parfois un peu enjolivé, hein, voilà, c'est peut-être une critique qu'on peut émettre à certains moments, mais ça reste très présent, donc ouais, que ce soit les étudiants, que ce soit les familles, que ce soit tous ces gens dont on a parlé jusqu'à présent, je crois que la cote d'amour américaine, elle est toujours très forte. Il faut simplement que les vicissitudes politiques d'une époque à l'autre, on se dise, bon, ok, ils ont voté ça, ils font ça, on observe, on essaye de comprendre.
Écoutez, Phil Choukroun, voilà une très bonne conclusion pour notre émission. C'était l'épisode numéro 139, Phil Choukroun, Brooklyn, Alsace. J'essaie toujours de trouver un titre un petit peu rigolo. Mais juste avant de terminer, est-ce qu'on mange de la tarte au fromage aux États-Unis? C'est notre petit gag dans notre émission.
Alors, si vous ne connaissez pas le New York Cheesecake, c'est que vous ne connaissez rien.
Ah oui,
c'est
oui,
indispensable.
Bien sûr. Le cheesecake. Voilà, vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, nous resterons en Europe puisque nous évoquerons un pays qui frappe à la porte de l'entrée de l'Union européenne, la Moldavie, avec une association nommée AM, hein, comme Alsace-Moldavie européenne. À la technique, Thomas Marinelli. And my name is not Orson Welles, it is, but Ambrose Perrine. What?